Avec la sagesse commence le repos du corps et de l'esprit. Avec la sagesse commence le repos du corps et de l'esprit. C'est un proverbe oriental. Et la sagesse, pour bon nombre de personnes, est insaisissable. Bon nombre de personnes également ne s'intéressent pas spécialement à la sagesse. Préfère même ne pas être concerné par le sujet de la sagesse. Et vous avez deviné le titre du sermon, presque, la sagesse, mais le titre exact, c'est la sagesse, notre allié. C'est un allié en ce qui nous concerne. C'est important, ça nous aide dans la vie. La sagesse, notre allié. J'ai divisé grosso modo ce sermon en trois parties. Premièrement, j'ai voulu montrer l'importance de la sagesse. Prenez-vous de la Bible, on peut démontrer à quel point c'est important. Deuxièmement, montrer l'utilité de la sagesse et de voir donc ce que la sagesse nous apporte. Ce que la sagesse nous apporte. Et troisièmement, et non le moindre, comment développer cette sagesse qui échappe à beaucoup de personnes? Comment développer la sagesse? On va commencer donc avec le premier point. Pourquoi c'est important? Pourquoi Dieu veut que nous développions la sagesse? Et on va regarder, si vous voulez bien, on va commencer avec Ésaïe, chapitre 11, et le verset 1. Ésaïe, chapitre 11, et le verset 1. Où on lit ceci. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. Parle donc que dans un contexte de millénium. Un rejeton naîtra de ses racines, verset 2, Ésaïe chapitre 11, maintenant, et le verset 2. Parle du Christ. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et ensuite, on définit davantage l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc c'est un esprit de sagesse qui va reposer sur le Christ quand le Christ va revenir sur cette terre au cours du millénaire. Ce sont des caractéristiques. Ce sera sa façon d'opérer en tant que roi des rois. Verset 3. Le Christ, il respirera la crainte de l'Éternel, et ce mot crainte, nous allons voir plus loin dans le sermon, il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un lui-dire, parce que c'est pas sage de se prononcer sur un lui-dire. La sagesse veut qu'on approfondisse, qu'on voit de quoi il retourne et qu'on ait tous les faits. Donc, le Christ va diriger le millénium, va diriger, enfin, le royaume, va régner avec sagesse. Nous, de notre côté, nous ferons partie de l'équipe. Si nous y sommes, donc avec le Christ, nous serons des rois, des sacrificateurs, qui auront développé aussi un esprit de sagesse. Qui ont développé un esprit de sagesse pour pouvoir travailler avec le roi, qui va régner avec sagesse. Ce sera un royaume de paix, de droiture, d'amour, de joie et de bonté. Et le Christ va régner avec les saints, avec une équipe qui aurait progressivement inculqué la sagesse dans leur vie personnelle. Des gens qui ont recherché la sagesse. Daniel chapitre 12 et le verset 3. Daniel chapitre 12 et le verset 3. Bon, c'est un écriture qu'on cite parfois pour l'avenir, pour comment nous serons quand nous sommes transformés en être spirituel. Daniel chapitre 12 et le verset 3 parle ici donc des gens qui seront dans le royaume de Dieu. Verset 3, « Ceux qui ont été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » Le Darby dit ceci, « Et les sages brilleront comme la splendeur de l'étendue. » Et les sages brillants comme la splendeur de l'étendue, ce sont des gens donc, qui sont devenus progressivement sages et qui vont être avec le Christ et qui sont dans le royaume. Verset 10. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui ont de l'intelligence comprendront. Là, pareil, le Darby dit, mais les sages comprendront. Donc, les justes, parce qu'il est question des justes qui sont dans le royaume, les justes auront développé donc cette sagesse. Il est important à plusieurs points de vue. Pourquoi c'est important? C'est important à plusieurs points de vue. C'est aussi important parce que notre maître, nous allons suivre notre maître, nous allons suivre notre roi. Et dans Luc chapitre 2 et le verset 40, il y a verset 40 et verset 52, mais d'abord le verset 40, c'est intéressant parce qu'on voit les traits de caractère déjà de Christ quand il était jeune, petit. Luc chapitre 2, verset 40. Bon, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse. C'est pas quelque chose qui était, il avait un peu de sagesse. Non, il était rempli de sagesse. Cette même sagesse qui va être exercée, la même sagesse qui était exercée quand il était venu en tant qu'être humain et qui sera de nouveau exercée quand il va revenir. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. C'est la sagesse qui vient dans nous. Ça, on verra aussi plus tard dans le sermon. Le Christ faisait toujours ce qui était bien, il savait comment agir en chaque circonstance. Et des circonstances qui étaient extrêmement pénibles et difficiles par moments. Verset 52. Pas uniquement est-ce qu'il était rempli de sagesse, le verset 52, c'est encore, qui amplifie la chose, si vous voulez. Et Jésus croissait en sagesse. Il avait déjà rempli de sagesse, et ensuite, le verset 52, il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Les deux aspects. Il croissait en sagesse. Et les gens le voyaient, les gens le remarquaient. Le Christ nous a montré donc le chemin en toutes circonstances. Il avait la sagesse de Dieu. Le Christ priait énormément, et le Christ avait donc l'Esprit de Dieu, et cette sagesse accompagnait son ministère, surtout face, bien sûr, aux détracteurs qui étaient nombreux. Donc c'est important, parce que le Christ avait cette sagesse, et nous, le Christ, bien sûr, c'est notre modèle. Ça fait partie, la sagesse fait partie de la voie de Dieu. Fait partie de la justice, même, comme tellement de choses. Il y a d'autres exemples, il y a le Christ, bien sûr, qui est notre exemple suprême, mais il y a aussi d'autres exemples que nous pouvons trouver dans la Bible. Il y a Daniel, vous rappelez quand Daniel, quand les hommes sages allaient être tués, parce qu'ils ne pouvaient pas donner ils ne pouvaient pas interpréter le songe que Nebuchadnezzar a reçu. Alors, c'est marqué, Daniel s'adressait d'une manière prudente et sensée à Arjok, parce qu'il devait être mis à mort, lui aussi en tant que sage. Ça, c'est dans Daniel chapitre 2, verset 14, je ne m'y rapporte pas. Daniel chapitre 2 et le verset 14. Et dans le synodal, c'est marqué, il parla, Daniel, parla à Arjok avec prudence et sagesse. Évidemment, sa vie était en jeu, et donc il parlait avec prudence et sagesse. Et Daniel était un grand homme de Dieu. Plus tard, Belshazzar, quand il a vu l'écriture sur le mur, a parlé à Daniel et a dit qu'il trouvait chez toi une sagesse extraordinaire, parce qu'il avait déjà interprété des songes, et il était connu donc pour sa sagesse, Daniel. Proverbe, la sagesse dit que la sagesse est trop élevée pour l'insensé. Et puis, on peut aussi prendre l'exemple de la femme vertueuse, qui est un modèle, qui est une référence. Et qu'est-ce qu'on voit dans la femme vertueuse? Ça, c'est Proverbe chapitre 31, le verset 26, mais j'y me rapporte pas non plus. Proverbe 31 et le verset 26. Elle ouvre, et ça, c'est une femme qui est juste, qui est vertueuse, elle ouvre la bouche avec sagesse. Je ne sais pas si elle a été sage tout au début de sa vie, mais elle a acquis, voilà le mot que je cherchais. Elle a acquis la sagesse. Elle est devenue sage si elle n'était pas auparavant. Et donc, spirituellement, c'est très important s'assurer que nous avons suffisamment du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit soit présent dans notre vie, qui nous donne cet esprit de sagesse. Et le verset 30, toujours Proverbe chapitre 31, qui dit que c'est la femme qui craint l'Éternel. On parle de la femme qui craint l'Éternel. C'est important de craindre Dieu. Mais cette femme avait beaucoup de sagesse. Dans Ecclésiaste chapitre 3, nous sommes familiers avec ce passage qui dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Ecclésiaste 3. Et puis là, il y a toute une liste. Donc il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Il y a toute une liste. Il y a un temps, par exemple, pour la guerre et un temps pour la paix. Et puis ensuite, verset 7, un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Et parfois, malheureusement, les gens, au lieu de se taire, ils parlent, et au lieu de parler, ils se taisent. C'est même marqué dans la Bible, l'insensé même quand il se tait passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Et il faut savoir, c'est sage de savoir quand il faut se taire et quand il faut parler. C'est très très sage. Et c'est toujours, de toute façon, c'est toujours sage d'écouter. C'est toujours sage d'écouter les autres. Il est donc impératif que, d'un point de vue biblique, point de vue chrétien, que nous développions la sagesse. La sagesse doit devenir importante pour nous sur un plan personnel. Nous sommes appelés à régner. Et dans le royaume de Dieu, la sagesse sera présente. Avec des gens qui auront développé la sagesse. C'est le dessein de Dieu que nous, dans le royaume, nous soyons bien équipés. Bien équipés en ayant cette sagesse. Quand on enregistre quelque chose, il y a toujours moyen, point de vue technique, de faire une pause. On peut, même maintenant, on pouvait faire une pause si on voulait. Bon, on va pas la faire, mais on peut faire une pause. Point de vue technique. Mais dans la vie, il n'y a pas de pause. Il ne devrait pas y avoir de pause. Il y a ça, mais ça c'est autre chose. Mais je parle pas de ça, je parle d'un contexte global, général. La vie s'écoule et c'est toujours le moment de développer en tant que chrétien et d'acquérir la sagesse. Et donc, Dieu s'attend à ce que nous poursuivions la voie de la sagesse. Dieu s'attend à ce que nous poursuivions la voie de la sagesse. Psaume 90, nous sommes probablement assez familiers avec Psaume 90 parce que c'est un contraste, la fragilité de l'homme, d'une part, avec l'éternité de Dieu, parce que la vie passe vite. Et la poste que nous aurons dans le royaume à avoir avec ce que nous aurons développé dans cette vie présente. Si nous n'avons pas été sages, si on a fait n'importe quoi, tout ça, ça va jouer sur notre avenir. Psaume 90, donc, suite à le thème, si vous voulez, de ce psaume, il y a une conclusion que nous trouvons dans le verset 12. Psaume 90 et le verset 12. Puisque la vie est éphémère, puisque la vie passe si vite, verset 12, enseigne-nous à bien compter nos jours. Enseigne-nous à bien compter les jours, nos jours, que nous soyons conscients de ceci, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et il y a un commentaire qui dit que nous devons, face à ce verset, qui parle de ce verset, dit que de considérer notre fragilité et la brièveté de la vie, afin que, justement, nous appliquions notre cœur à la sagesse. La jeunesse, je n'ai rien contre de la jeunesse, mais la jeunesse n'est souvent pas concernée par le fait de compter ses jours, parce que quand on est jeune, la vie va continuer pendant longtemps. Quand on a quelques années de plus, on sait que c'est pas le cas. Mais la jeunesse n'est, donc comme je dis pas, souvent n'est pas concernée par le fait de compter ses jours, et ne pas avoir des conséquences n'est pas concerné par cet effort, parce que c'est un effort. C'est un effort de bien compter ses jours, surtout de s'appliquer, d'appliquer notre cœur à la sagesse. Ça demande un effort. Et quand un jeune fait ce genre de choses, là on peut parler de maturité. Là on peut parler de maturité. Donc la première chose, on vient de le voir, à quel point c'est important. À quel point c'est important pour Dieu, et donc ça devait être pour nous aussi. Le deuxième aspect de ce sermon, deuxième volet si vous voulez, c'est que c'est utile de voir ce que la sagesse apporte. C'est utile d'avoir ce que la sagesse apporte. On peut voir ça de deux aspects, spirituellement et physiquement déjà. Ecclésiaste chapitre 7 et le verset 11. Ecclésiaste chapitre 7. Et le verset 11. Ecclésiaste chapitre 7, verset 11. La sagesse vaut autant que l'héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. Et même plus pour ceux qui voient le soleil. Verset 12. Car à l'homme de la sagesse, on est abrité comme à l'homme de l'argent. C'est vrai que l'argent peut mettre à l'abri pour un certain nombre de choses, peut nous protéger de certaines difficultés, mais l'argent ne procure pas le bonheur. Car à l'homme de la sagesse, on est abrité comme à l'homme de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ce qui le possède. La sagesse est supérieure à l'argent. De loin. La sagesse nous permet d'éviter un certain nombre de problèmes. Et la sagesse nous permet de vivre. Vivre, on vient de voir tout à l'heure, déjà dans un contexte spirituel, et nous permet de vivre des vies saines aussi. Et bien sûr, les proverbes sont remplis de sagesse. On peut regarder juste quelques passages dans les proverbes pour voir ce que la sagesse apporte, entre autres. Proverbes chapitre 3, verset 13. C'est très bon d'étudier les proverbes. Les proverbes sont très riches. On voit tous les bienfaits, tous les bénéfices. Les gens recherchent le bonheur. Mais le bonheur vient avec la sagesse aussi. Proverbes chapitre 3, verset 13. C'est ce qui est marqué ici, dans Proverbes chapitre 3, verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui possède l'intelligence. On veut être heureux, il faut passer par la sagesse. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui possède l'intelligence. verset 14. Car la gain qu'elle procure, et donc pourquoi, la raison pour laquelle on peut être heureux avec la sagesse, car la gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Beaucoup de gens cherchent le bonheur, beaucoup de gens cherchent des richesses aussi. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous puissions développer la sagesse. Verset 15. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. C'est supérieur à du matérialisme. Et là, de nouveau, j'ai le même commentaire qui dit quelque chose à ce sujet, à ce sujet de verset 15. Il dit ceci, que la sagesse est supérieure à tout ce qui peut être un objet de désir ici-bas. Que la sagesse est supérieure à tout ce qui peut être un objet de désir ici-bas. Et ensuite, il ajoute ceci, très intéressant, mais il dit, mais qui est-ce qui le croit? Mais qui est-ce qui le croit? Qui est-ce qui croit que c'est la sagesse est supérieure à tout ce que nous voyons autour de nous? Et c'est là, justement, le problème. C'est que les êtres humains ne le croient pas. Dieu le dit, et c'est vrai. Verset 16. Dans sa droite, la sagesse est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Verset 17. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Tous ces sentiers sont paisibles. Sinodal dit la sagesse apporte la paix. Verset 18. Elle est un arbre de vie, ça rejoint ce que nous avons déjà lu, elle est un arbre de vie pour ceux qui le saisissent et ceux qui le possèdent sont heureux. Oui, c'est souligner ce bonheur qui vient avec la sagesse. Ça apporte la paix. Ses voies sont agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Ça, c'est le verset 18 dans le Darby. Et tous ses sentiers sont paix, ou shalom, le mot avec lequel nous sommes aussi familiers. Salomon a été un homme de sage et un homme de paix. 2 Samuel chapitre 20, verset 15 pour commencer. C'est une histoire ici, je vous raconte peut-être l'histoire d'abord. C'est après la défaite et la mort d'Absalom, qui se rebellait contre son père, et le roi David, est donc à retraverser le Jordan. Il y avait déjà une dispute entre Israël et Juda. Je ne sais pas sage d'avoir des disputes. Et on pouvait apaiser la dispute, mais qui a raison, qui a tort, ça c'est pas le plus important. Mais il y avait un méchant homme qui s'appelait Sheba, qui voulait exploiter la situation. De Samuel, chapitre 20. De Samuel, chapitre 20. Le verset 15. Parce que cet homme, donc, il a fait en sorte que les gens, il a demandé aux gens de retourner dans leur tente et les gens, donc, n'étaient plus unis, la nation n'était plus unie entre Israël et Juda. 2 Samuel, chapitre 20 et le verset 15. Et cet homme, donc, il est parti. Il s'est sauvé puisque David a envoyé des hommes après lui, des hommes contre lui. Il vint et il se réfugiait dans une ville qui s'appelait Abel-Beth-Maka. Verset 15. L'armée donc de Joab, à ce moment-là, il vint assiéger Sheba dans Abel-Beth-Maka. Et ils élevaient contre la ville une terrasse qui atteignait le rempart. Tout le peuple qui était avec Joab sapait la muraille pour le faire tomber. Donc c'était sérieux, c'était grave. Et il y avait un problème. Le problème, c'était Sheba. Verset 16. Alors une femme habile se mit à crier de la ville, écoutez, écoutez, dites, je vous dis, à Joab, approche jusqu'ici, je veux te parler. C'était une femme qui avait une certaine sagesse. Habile, dans le Shoraki, l'Ostewald et le Martin, le mot habile est traduit par sage. Dans le Shoraki, l'Ostewald et le Martin, la traduction c'est sage. Cette femme avait une sagesse non négligeable. Alors, verset 17, Joab, il s'approcha d'elle, et la femme dit, « Es-tu Joab ?» Il répondit, « Je le suis. » Et elle lui dit, « Écoute les paroles de ta servante. » Il répondit, « J'écoute. » Et elle dit, « Autrefois, on avait coutume de dire que l'on consulte Abel, et tout se terminait ainsi. » Autrement dit, c'était une ville qui était connue déjà pour une certaine sagesse, qui pouvait prononcer un jugement. Et prononcer un jugement fait partie aussi de la sagesse. Verset 19. Je suis une des villes paisibles et fidèles en Israël, et tu cherches à faire périr une ville qui est une mère en Israël. Pourquoi détruiras-tu l'héritage de l'Éternel? Et cherchez la paix, et cherchez pas le confrontement, et voulez que sa ville reste en paix. Et était connu pour sa sagesse. Verset 20. Joab répondit, loin, loin de moi la pensée de détruire, de ruiner. Verset 21. La chose n'est pas ainsi, mais un homme de la montagne d'Éphraïm, nommé Sheba, fils de Bikri, a levé la main contre le roi David. Livrez-le, lui seul, et je m'éloignerai de la ville. La femme dit à Joab, voici sa tête sera jetée par la muraille. À l'époque, les choses étaient assez physiques. Et avec sa sagesse, verset 22, la femme alla vers tout le peuple avec sa sagesse, et ils coupèrent la tête à Sheba, fils de Bikri, et la jeta à Joab. Joab sonna de la trompette et on se dispersa loin de la ville, et chacun s'en alla dans sa tente, et Joab retourna à Jérusalem vers le roi. C'était aussi sagesse, la sagesse d'enlever le mal au milieu d'Israël. D'enlever ce mal qui peut faire qui peut créer des problèmes, comme c'est marqué dans la Bible. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Et dans le contexte où on parle de ça, c'était sage, donc, de le faire. Cette femme, donc, avait cette sagesse, et elle voulait que sa ville reste en paix. En Corinthiens chapitre 1, verset 26. Si nous voulons vivre comme nous entendons, si nous voulons vivre selon le désir de notre nature humaine, ça peut provoquer des problèmes. Si nous voulons vivre comme nous entendons. Mais est-ce que la question qu'on devait se poser, est-ce que c'est sage de vivre comme je veux vivre? En Corinthiens chapitre 1, verset 26. En Corinthiens chapitre 1 et le verset 26. Il y a ici un problème qui concerne la plupart d'entre nous. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages sur la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nul chair ne se glorifie devant Dieu. Alors, à partir du moment où nous nous trouvons dans cette catégorie, ça définit donc la plus grande partie des gens que Dieu appelle, à partir de ce moment-là, c'est un vrai défi. Parce qu'on vient de voir l'importance de la sagesse, et voilà que Paul dit ici que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages sur la chair, etc. Donc c'est un vrai, puisqu'il faut devenir sage, puisque le royaume de Dieu sera un royaume où il y aura la sagesse, c'est un vrai défi qui nous guette, c'est un changement radical qu'il faut effectuer dans notre vie pour devenir sage. Et du reste, un peu plus loin, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 5, un peu plus loin, il y a comme un reproche, oui, c'est un reproche de la part de l'apôtre Paul, où il dit, parce que les gens n'étaient pas capables de juger, il dit, il n'y a parmi vous, Il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Il n'y a pas parmi vous un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. La déduction, c'est qu'il y aurait dû y en avoir. Il y aurait dû y avoir de l'évolution. Ils auraient dû, les membres de l'église de Corinthe, comme nous tous, auraient dû progresser. Ils auraient dû faire l'effort nécessaire pour avoir la sagesse, pour avoir davantage de la sagesse. Donc, je vous ai parlé de l'importance de la sagesse. Je vous ai parlé également de tout ce que ça apporte, la sagesse. Et peut-être avant d'aller plus loin, je veux me rapporter à Proverbes chapitre 4, qui va aussi souligner ce que la sagesse apporte. Proverbes chapitre 4, verset 5. Proverbes chapitre 4, verset 5. Acquiert la sagesse, c'est important pour Dieu, et donc ça devrait être pour nous. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche, et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas, et elle te gardera. Aime-la, elle te protégera. Les bienfaits de la sagesse sont énormes. Malheureusement, il y a de moins en moins de bon sens de nos jours. Sans même parler de la sagesse. Verset 7. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Il faut que ce soit important, vraiment important à nos yeux. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Verset 9. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce et t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront, même sur un plan physique. Donc, les bienfaits de la sagesse. Verset 11. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Verset 12. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Mais si tu cours, tu ne chancelleras point. On aimerait bien avancer dans la vie sans tomber, sans chanceler. Et la sagesse nous aide à le faire. Donc le troisième aspect que j'avais évoqué au début du sermon, puisqu'il y a un problème qui définit la plupart d'entre nous, qu'on vient de voir dans Corinthiens chapitre 1, il y a une solution. La solution, donc, comment développer la sagesse. Mais là, il y a trois aspects, là encore, dans comment développer la sagesse. Premièrement, nous lisons dans Proverbes chapitre 9, verset 10. Proverbes chapitre 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ça, c'est Proverbes, chapitre 9, verset 10. Et puis, Proverbes, chapitre 2, verset 6. Proverbes, chapitre 2, verset 6. Savoir, donc, avec la conversion, la sagesse, si nous voulons avoir la sagesse, la vraie sagesse, la sagesse de Dieu, la sagesse de nous, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Proverbe chapitre 2, verset 6. Proverbe 2, Proverbe 3, donc, parle de comment. Et c'est que, comment Dieu peut nous aider. Proverbe chapitre 2, verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. Car l'Éternel donne la sagesse. Donc, le deuxième aspect, c'est que c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui le donne, la sagesse. Et bien sûr, il faut être conscient que c'est Dieu qui donne. Il faut être suffisamment humble pour reconnaître qu'on a besoin. Et donc, nous arrivons au troisième point. C'est que d'être suffisamment humble dans notre vie pour demander la sagesse. De demander à Dieu la sagesse. Jacques chapitre 1, verset 5. Jacques chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tout simplement sans reproche et lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Donc de demander avec foi, parce que c'est Dieu qui donne. La sagesse, la vraie sagesse, la sagesse dont nous vient de Dieu. C'est un don précieux de Dieu. Et c'est un don, mais c'est un don qu'il faut demander, demander avec foi. Dieu veut donner, à nous de demander. Tournez la page, si vous voulez, à Jacques chapitre 3, verset 13. Dans Jacques chapitre 3, verset 13. On parle également ici des fruits de l'esprit, des fruits de cette sagesse. Jacques chapitre 3 verset 13, lequel d'entre vous est sage et intelligent qui monte ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Donc la sagesse c'est quelque chose qui est douce. Avec la douceur de la sagesse. Verset 14, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. Ça, c'est la mauvaise sagesse, sagesse entre guillemets. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là, il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Alors, verset 17. Ensuite, on voit ici, c'est très détaillé pour finir. On voit les fruits de la sagesse. De la sagesse de Dieu. La sagesse dans nous, ce que Jacques appelle donc la sagesse dans nous, est premièrement pure, ensuite pacifique, et on trouve cette même conception de paix pacifique dans l'Ancien Testament. Ensuite pacifique, modérée, évidemment, sagesse c'est quelque chose qui est modéré, conciliante, parce qu'on ne veut pas être en bisbille, avec qui que ce soit, conciliante, pleine de miséricorde. C'est sage d'être miséricorde. Dieu, miséricorde, Dieu, est de bons fruits. Exempte de duplicité, d'hypocrisie. Donc, ce sont des caractères, traits de caractère qui sont énumérés ici. Et c'est un lien avec la justice. C'est un lien avec la paix. C'est un lien avec la justice. Quand nous regardons les premiers diacres qui étaient choisis à l'époque des apôtres, du reste c'est intéressant de voir comment les diacres étaient choisis, parce qu'il y avait un problème, il y avait un problème physique à l'époque entre les veuves, et ils ont choisi soigneusement les premiers diacres, des gens qui étaient remplis du Saint-Esprit. Nous trouvons ceci dans Actes chapitre 6. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les qualifications de ces premiers diacres. Ce qu'on cherchait chez ces premiers diacres. Dans Actes chapitre 6. Des gens qui ont très certainement progressé dans la foi, qui ont progressé dans la voie de Dieu. Et nous trouvons donc dans Actes chapitre 6 et le verset 3, le caractère qu'ils cherchaient. C'est pourquoi frères, c'est les apôtres qui parlent, c'est pourquoi frères, choisissez parmi vous sept hommes, des clients rendent un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint, donc des gens convertis, et de sagesse spécifiée, et que nous chargerons de cet emploi, c'est-à-dire pour distribuer, pour donner aux veuves qui étaient dans le besoin. Et de sagesse, et que nous chargeons de cet emploi. La piété et la justice ne suffisaient pas, il fallait qu'il y ait aussi la sagesse. Il ne voulait pas les gens, les diacres, ici, dépourvus de sagesse. Mais il ne pouvait, Actes chapitre 6, verset 10. Nous avons Étienne, et Étienne, justement, avait cette sagesse. Verset 10. Il parlait avec sagesse, et c'est marqué ici dans le verset 10, mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par laquelle il parlait. Il a fait preuve de sagesse, beaucoup de sagesse. Il avait progressé dans la voie de Dieu. Et on va peut-être regarder ça de plus près dans Actes chapitre 6. Actes chapitre 6. Parce qu'il est confronté à des gens qui étaient plutôt hostiles. Actes chapitre 6. Verset 10, donc, il ne pouvait résister à sa sagesse, l'esprit par laquelle il parlait. Alors, il se subornait à des hommes qui disaient, nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Verset 15. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin et ont fixé leur regard sur Étienne, son visage, leur parole comme celui d'un ange. Et chapitre 7, verset 1. Le souverain sacrificateur dit, les choses sont-elles ainsi? Ce qui est intéressant avec Étienne, c'est que il a élevé le débat. On vient de voir qu'il y avait des fausses accusations contre lui, mais il élève le débat. Il élève le débat, il descend pas à ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence, il parle longuement, à partir de verset 2. Étienne répondait, homme, frère et père, ils se mettent dans la même catégorie, ce sont des frères et des pères. Écoutez, le Dieu de gloire apparu à notre père Abraham. Donc, il parle de quelque chose qu'ils ont en commun. Et comme j'ai dit, il s'abaisse pas à leur débat, et il parle de leur histoire, de leur père. Et il parle très longuement. Et à un moment donné, bien sûr, les choses passent différemment, mais peut-être que déjà, les gens sont devenus de plus en plus hostiles, mais il est devenu par la suite, bien sûr, un martyr. Il avait le courage, la foi et l'amour pour être un martyr. C'est pas donné à tout le monde. Il y avait la foi, le courage et l'amour pour être un martyr. Mais il n'y avait pas de haine de la part d'Étienne. Paul nous donne des instructions à propos de la sagesse. Et les instructions qu'il nous donne dans Colossiens 3 et Colossiens 4 englobent deux scénarios. Colossiens chapitre 3, verset 16. Colossiens chapitre 3 et le verset 16. Colossiens chapitre 3 et le verset 16. Que la parole du Christ habite parmi vous abondamment. Colossiens chapitre 3, verset 16. Que la parole du Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et ce principe-là, que ce soit par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, ce principe-là, on peut l'appliquer également à d'autres domaines. Mais le tout, il faut que ce soit avec sagesse. Donc, de parler, d'encourager nos frères dans l'Église, d'exhorter, d'instruire nos frères dans l'Église, mais avec sagesse. D'agir avec les frères et les sœurs dans la foi avec sagesse. D'avoir les bons moments, les bons mots au bon moment. Et de réfléchir auparavant. Si nous disons à quelqu'un dans l'Église qu'il y a un problème, qu'il se confie à nous avec un problème, si vous dites à la personne, vous n'avez qu'à prier, c'est généralement par la sagesse qui, nous n'avons pas vraiment fait preuve de sagesse à ce moment-là, si nous disons, vous n'avez qu'à prier. Non, il faut réfléchir, il faut donner les bons moments, les bons mots au bon moment. Ça, c'est donc pour les frères dans l'Église, et puis il y a pour les autres. Mais les autres, l'apôtre Paul en parle aussi dans chapitre 4, verset 5. chapitre 4 et le verset 5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux de dehors, donc pas uniquement la sagesse pour les membres de l'Église, pour nos frères et nos sœurs dans l'Église, mais aussi la sagesse envers ceux de dehors. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux de dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit, et le verset 6, bien sûr, rejoint le verset 5, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre, à chacun. Des paroles de grâce, des paroles de bon goût, pour que nous puissions savoir comment il faut répondre à chacun. On peut aussi ajouter Éphésiens chapitre 5, verset 15. Éphésiens chapitre 5, verset 15, où il parle il dit ceci, « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. » Éphésiens chapitre 5, verset 15. « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. » Donc la Bible dit qu'il faut prendre garde. Il faut prendre garde comment? Avec circonspection. Le Martin, le Darby parle de soigneusement. Et le synodal, « Veillez avec soin sur votre conduite. » Veillez avec soin sur votre conduite. Ostevat, non comme des gens dépourvus de sagesse, mais comme des personnes sages. Car les jours sont mauvais. Il est donc très important que nous faisions attention de nous conduire avec sagesse. Nous pouvons, je ne vais pas forcément prendre le temps maintenant, mais nous pouvons regarder Matthieu chapitre 10 et le verset 16, d'être justement prudent comme des serpents, parfois traduit par sage, prudent. La nature du serpent, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on imagine, souvent la nature du serpent, c'est le fait de se cacher quand il y a un danger. Donc, notre façon de vivre, c'est d'être prudent. Il y a aussi Matthieu chapitre 25, les vierges sages et les vierges folles, et sans entrer dans tous les détails. Donc, Dieu nous met en garde avec ce qu'il nous a donné, d'avoir suffisamment du Saint-Esprit et de développer le Saint-Esprit, de développer la sagesse. C'est un privilège, c'est un grand privilège de connaître les gens qui ont de la sagesse. Proverbes chapitre 13, verset 20. Proverbes chapitre 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage. Donc, il faut bien choisir ses amis. Il faut bien choisir les gens avec qui on passe beaucoup de temps. Celui qui fréquente les sages, je m'y rapporte pas, mais celui qui fréquente les sages devient sage. Et les gens qui sont sages, c'est un puits pour nous. Encore faut-il savoir y puiser. J'ai le privilège de connaître un certain nombre de personnes que j'estime sages. Et pas uniquement ça, c'est qu'ils sont sages dans leur domaine bien précis. Si je cherche dans un domaine, je sais où trouver une personne sage dans ce domaine-là. Je n'ai pas dit tous les domaines, mais dans certains domaines. Dans un autre domaine, je sais que c'est quelqu'un d'autre qui peut me donner sa sagesse. C'est une bénédiction, la sagesse, à l'époque, à notre époque, où le bon sens s'en va. Et la sagesse bénéficie les autres. Je connais des gens qui sont pratiquement toujours de bons conseils. J'ai voulu terminer avec Proverbes chapitre 8. Et à partir du verset 12, il y a beaucoup de proverbes qui parlent de la sagesse. Dans Proverbes chapitre 8, c'est extrêmement élogieux. À partir du verset, le verset 12 d'abord, je prends quelques versets ici seulement pour montrer l'importance, le poids de la sagesse, les bénéfices de la sagesse. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède, donc la sagesse, la science de la réflexion. Si nous réfléchissions auparavant, avant d'agir, ça va nous aider, ça va nous éviter parfois des grands problèmes. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Verset 20. Je marche dans le chemin de la justice. Donc, ça a à voir avec la justice. Je marche dans le chemin de la justice au milieu des sentiers de la droiture. Verset 21. Pourquoi? Pour donner des biens à ceux qui m'aiment. Mais il faut aimer la sagesse, là. Il faut être motivé. Il faut chercher la sagesse. Pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir le trésor. Et puis je termine avec le verset 35 et le verset 36. Toujours Proverbes chapitre 8. Parce qu'il y a des bénédictions énormes avec la sagesse. C'est un garde-fou pour nous. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Et il obtient la faveur de l'Éternel. Important pour nous, obtenir la faveur de l'Éternel. Verset 36. Mais celui qui pêche, c'est bien le mot péché qui est employé ici, mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort.